une légitimité, on va dire, limitée, du fait notamment des taux d'abstention et du fait aussi de ses pratiques de vote qui sont les siennes, qui ne correspondent pas en fait à la tradition parlementaire telle qu'elle s'est forgée dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Et qui plus est, de toute manière, le pouvoir de décision appartient au premier chef, au gouvernement. On l'a vu dans la gestion de la crise, c'est les chefs de gouvernement qui quand même décident. Et le fait est que la révision des traités requiert leur vote à l'unanimité, de même en fait que beaucoup des mesures que souhaite l'ensemble de la gauche. Alors il y a une vraie question, quoi. Comment est-ce qu'on peut espérer convaincre une majorité de gouvernements de conduire l'Union dans des chemins différents qui iraient à rebours, dans le fond, des orientations qu'elle a prises depuis 20 ans, peut-être, à contre-courant de la doxa libérale. Donc là, on entre quand même dans le domaine de l'improbable quand on imagine de créer cette autre Europe. Et face à cette question un peu épineuse, il faut bien le dire, on a des réponses très différentes. Bon, il y a ceux qui l'esquivent en disant « bon, on essaiera de convaincre nos partenaires européens ». Il y a des réponses plus intéressantes, celles de personnalités comme Hubert Védrine ou Jean-Pierre Chevènement, qui insistent d'abord sur l'idée que c'est une question de volontarisme, c'est-à-dire de courage politique, dont ont systématiquement manqué les sociaux-démocrates, qui ont accepté les orientations libérales de l'Union européenne. Et dans le fond, il tient qu'à eux de mener la bataille des idées et d'exiger de renégocier des pans entiers, finalement, de la politique de l'Union. Du côté de la gauche altermondialiste, vous l'avez évoqué au début, on assiste davantage sur l'idée de créer un mouvement social européen. C'est une idée très forte, à la fois parce que je pense qu'elle correspond à une nécessité. On voit partout une montée des populismes, de la xénophobie. On a quand même une situation où les travailleurs des différents pays de l'Union sont mis en concurrence. D'où l'importance de faire exister des formes de solidarité, de mobiliser aussi à cette échelle les travailleurs européens. Ceci étant, c'est aussi l'idée derrière que c'est grâce à ce mouvement social européen qu'on pourrait espérer peser sur les orientations de l'Union européenne et les infléchir. Cependant, aujourd'hui, on voit quand même se dessiner des positions un peu différentes de celles-ci, au sens où elle pose la question de... l'horizon plus ou moins incertain de ce changement de l'Union européenne à travers la création d'un mouvement social européen dont on ne voit aujourd'hui au mieux que les prémices, ou pas grand-chose. Donc on voit se dessiner une position différente, en fait, qui insiste plutôt sur l'idée que la voie du changement pourrait advenir par la voie d'un gouvernement progressiste qui accéderait au pouvoir et qui accepterait de se heurter au cadre européen et même de rompre avec... l'ordre européen. Donc du coup, voilà, c'est tous ces sujets qui sont évoqués dans le papier.
On continue et on finit avec le diplôme de ce mois de juin pour parler du gaz de schiste. Alors ça a été la grande surprise quand même. Brusquement, on a découvert qu'il y avait des recherches qui étaient faites pour cette ressource absolument miraculeuse qu'est le gaz de schiste. Mais la réaction... je mets ce mot entre guillemets, bien sûr, a été très vive quand même dans les milieux écolos. Il y a un certain nombre d'endroits en France qu'on suppose dépeuplés avec des gens qui n'existent pas ou qui passent leur temps à dormir. Ils ont montré une capacité de réaction et de mobilisation tout à fait étonnante.
Oui, c'est ce qui est vraiment fou dans ce dossier, d'ailleurs, c'est que cette mobilisation des populations est inversement proportionnelle à l'intérêt des médias de masse pour ce sujet. Ça n'intéressait personne, les gens disaient « gaz de schiste », rien que le mot, alors se prêtait même souvent à des jeux de mots, « j'ai lâché un gaz de schiste », etc. Alors que, concrètement sur le terrain, à partir de décembre dernier, et d'une manière effectivement fulgurante, il y a eu une mobilisation de citoyens, ça s'est beaucoup localisé, effectivement c'est parti du Larzac, les Cévennes, mais ça s'est très vite étendu l'Ardèche...
Jusqu'en Seine-et-Marne pour le pétrole de schiste.
Voilà, et également en Seine-et-Marne pour le pétrole de schiste, où là, les projets sont beaucoup plus avancés que les forages de gaz de schiste, et où il y a eu cet immense réseau qui a en fait permis de porter dans le débat public et de porter au premier poste de l'intérêt politique cette question extrêmement technique, extrêmement complexe, des gaz de schiste pour qu'on se retrouve avec un unanimisme quasiment jamais vu, courant mars, de l'UMP, le PS et le Parti radical de Borloo qui proposent chacun une loi d'interdiction totale de l'exploitation de